La Mutualité Française Sud, délégation de Vaucluse, vous présente les Lives Santé sur RTVFM.
Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver sur RTVFM 102.2 et en DAB+. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro des Lives Santé en partenariat avec la Mutualité Française, délégation de Vaucluse. Aujourd'hui, notre émission sera consacrée à un sujet essentiel, la santé mentale des jeunes. Selon l'OMS, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Jouir de sa santé mentale, c'est être capable de créer des liens, d'agir, d'être autonome et de s'épanouir. La santé mentale est un droit humain fondamental, elle est donc l'affaire de tous. Comment va le moral des jeunes? Quel est leur état de bien-être ou les causes de leur mal-être? Des études existent et elles nous alertent. Face à ce constat, et pour en débattre, nous avons choisi aujourd'hui de donner la parole à celles et ceux qui sont les premiers concernés, les jeunes. Ils sont lycéens au campus Provence-Ventoux, situé sur la commune de Carpentras-Serres. Ils vont pouvoir apporter leur témoignage. Pour l'instant, nous en avons deux sur le plateau. On leur dit bonjour. C'est Axel et Julien. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Du côté des autres intervenants, nous aurons l'appui d'un professionnel, en la personne de Yann Dognon, accueillant, écoutant au sein du point Écoute Jeune, le passage PAEJ, situé à Carpentras. Yann Dognon, bonjour.
Bonjour.
Et pour représenter la Mutualité Française, nous accueillons Elisabeth Hansberger, qui est la présidente de la délégation de Vaucluse de la Mutualité Française PACA. Elisabeth Hansberger, bonjour.
Bonjour.
Alors Elisabeth, on commence par vous. Pourquoi la Mutualité Française a-t-elle fait le choix de s'impliquer dans le domaine de la santé mentale des jeunes?
Alors la Mutualité Française PACA et sa délégation de Vaucluse s'engagent pour l'accès à la santé de tous et de toutes. Donc nous participons aux côtés des acteurs de santé publique et de l'économie sociale et solidaire au bien-être des Vauclusiens. Depuis plusieurs années, nous avons fait le constat que la santé mentale des jeunes s'est nettement aggravée. Dépression, troubles du sommeil, pensées suicidaires ou pas, bref. Donc cette santé mentale représente aujourd'hui un enjeu sanitaire majeur et un sujet prioritaire de prévention. Et nous sommes des acteurs de prévention qui, sur le terrain, essayons de nous engageons le plus souvent possible.
D'où votre présence aujourd'hui, puis en plus vous êtes partenaire, je le rappelle, de l'émission.
Tout à fait.
Merci Elisabeth. Yann Dognon, vous êtes accueillant, écoutant au point Écoute Jeune, le passage de Carpentras. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'association ainsi que votre rôle au sein de cette structure?
Alors un PAEJ, donc un point d'accueil et d'écoute pour les jeunes, c'est des structures qui accompagnent des jeunes entre 10 et 25 ans, ou qui accompagnent aussi des parents d'adolescents dans leur parentalité. Le but, c'est d'avoir un accueil généraliste sur la question de l'adolescence et de la santé mentale, où tout un chacun peut avoir accès à un lieu d'écoute. Donc moi, en tant qu'accueillant et écoutant, je propose des entretiens individuels anonymes, confidentiels et gratuits, qui n'ont pas un but de thérapie, mais surtout un but d'écoute, où tout un chacun peut venir verbaliser tout ce qu'il traverse. Donc autant toutes les questions adolescentes, mais aussi des questions qui sont un peu plus importantes sur les violences intrafamiliales, sur la question du suicide, sur la question des troubles anxieux, sur la question... toutes les questions adolescentes, finalement. Il n'y a pas de limite, finalement.
Pas de limite. En tout cas, merci de prendre de votre temps pour venir participer à cette émission. On vous en remercie. Et si vous le permettez, on va commencer par une question aux jeunes. La toute première question à Axel et à Julien. Pour commencer, j'aimerais savoir qu'est-ce que le mot santé mentale évoque pour vous, Axel?
Comment est-ce que je l'expliquerai?
C'est pas facile
du tout. La santé mentale, déjà, pour moi, c'est quelque chose de fondamental, forcément.
Oui.
Parce qu'on ne fonctionne pas sans la santé mentale derrière. Si ça ne va pas mentalement, ça n'ira pas physiquement et ça n'ira pas socialement derrière. Pour avoir vécu des choses qui ont fait que je me suis sentie isolée, que j'ai été isolée, que je ne voulais pas continuer, c'est vraiment dur. Donc la santé mentale, c'est... Je ne saurais pas comment expliquer, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin d'avoir.
Oui, que tu as quelque chose que tu as besoin d'avoir en toi.
Ouais.
Et Julien?
Je trouve aussi que c'est très important, puisque en fait la santé mentale, elle va permettre de pouvoir aussi avoir aussi des objectifs. C'est-à-dire que si on peut nous rabaisser, nous dire que on peut avoir une pression sociale pour avoir toujours des objectifs très élevés, au bout d'un moment, on peut aussi avoir on peut se décourager et penser que du coup on peut pas y arriver puisque du coup on peut pas atteindre des objectifs qui peuvent être très élevés.
Yann Dognon, quand vous recevez des jeunes, les questions, vous posez peut-être pas cette question en premier, loin de là, mais par rapport à ce qu'ils viennent de dire, est-ce que pour vous, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mot par rapport à ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que vous pourriez rajouter?
Je pense qu'un intéressant à souligner, c'est effectivement le fait que la santé mentale et la santé de manière générale sont des choses qui sont complètement indissociables. Et donc, effectivement, prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de santé mentale, et etc. Et dans, vous avez parlé d'isolement, de pression sociale. Effectivement, la question de la santé mentale, c'est une question de notre vie de tous les jours. Vous l'avez donné aussi un peu en définition, oui. Mais c'est notre capacité à surmonter un petit peu les passages à vide de la vie. On est tous traversés à un moment donné par des pressions sociales, comme tu disais, par des événements de vie, comme tu disais aussi, et qui à un moment donné viennent attaquer notre santé mentale. Et la question, c'est comment est-ce qu'on la prend en charge, effectivement, sur long terme, qui sont des questions très individuelles, mais aussi collectives.
Alors, avant de parler de la prise en charge, parce qu'on y viendra, toujours dans la continuité de ma première question, est-ce un sujet dont vous parlez facilement entre vous, et pourquoi ? Axel, est-ce que c'est un sujet que tu abordes ou pas du tout ?
Ben, c'est un sujet que j'aborde parce que j'ai appris à l'aborder, et je me suis forcée à l'aborder. Mais effectivement, ce n'est pas forcément un sujet facile à trouver le temps de l'aborder, parce que c'est un sujet qui est quand même lourd. Et on n'a pas forcément la réponse de la personne en face avant qu'on en parle. Donc pendant longtemps, je me suis refusée d'en parler parce que je me disais que ce n'était pas le problème des autres, que c'était le mien. Et en fait, d'en parler, ça fait du bien. Donc j'ai continué à en parler et je me force encore aujourd'hui à dire quand je ne vais pas bien.
Alors quand tu dis en parler facilement, est-ce que c'est à des professionnels ou que tu avais des difficultés pour en parler justement à des membres de la famille, ou tes amis, tes copains ?
À tout le monde.
À tout le monde.
À tout le monde. J'ai rarement eu l'occasion de pouvoir vraiment voir des professionnels sur du long terme.
Oui.
Donc j'en parlais beaucoup à mes amis quand j'ai vraiment commencé à en parler, puisque ma famille, c'est pas forcément la plus ouverte sur ce sujet-là. Et en parler même juste à des amis ou des gens qui ne sont pas forcément professionnels, de réussir à le sortir, ça fait déjà beaucoup de bien.
Alors tu dis que ce n'était pas facile. Comment ton message était reçu par les autres à qui tu parlais de ton problème ?
Bah, ma famille, elle n'était pas réceptive dans le sens où elle ne comprenait pas. Je leur expliquais que je n'allais pas bien et eux, ils n'étaient pas capables de comprendre que je n'allais pas bien.
Par rapport à ton âge, on se dit que ce n'est pas possible d'être, ne pas être bien à l'âge que tu as. Voilà,
c'est ça. Ouais. On se dit que ce n'est pas possible, tu es trop jeune pour ressentir vraiment quoi que ce soit ou pour avoir vécu quoi que ce soit qui te fait que tu ne te sentes pas bien. Et après, niveau professionnel, j'ai eu un psychologue avec qui j'ai eu 2 séances. Et j'avais une habitude de me gratter quand j'étais stressée pendant longtemps. Et à cette première séance, j'étais stressée, donc je me grattais. Lui qui m'a posé la question si c'était de l'eczéma, parce que je me grattais, je lui ai dit que non. Et il n'a jamais réabordé le sujet, il n'en a jamais touché quoi que ce soit.
Oui.
Et toute la séance, en fait, tout ce que je lui ai raconté, il a tout ressorti à mes parents à la fin, sans poser de questions, sans savoir si je voulais en parler ou pas.
Et ça t'a bloqué un petit peu sur le...
Oui, ça m'a quand même pas mal bloqué derrière.
Sur ce professionnel qui, finalement, tu t'es confié et qui est allé répéter directement à tes parents.
C'est ça.
Et donc, depuis, tu as continué à avoir des professionnels ou pour l'instant, non ?
J'ai vu quelqu'un au début de mon lycée et puis j'ai arrêté puisque ça ne me menait pas à quelque part. Et en fait, j'allais beaucoup mieux déjà, moi, en sortant, en me forçant à sortir et en allant en internat au lycée.
Et Julien, toi, est-ce que c'est un sujet dont tu parles facilement autour de toi ? Est-ce que déjà tu as des difficultés ou pas ? Déjà, pour la première question, peut-être que ce n'est pas le cas, mais ou peut-être c'est autour de toi, certaines personnes que tu connais. Est-ce que toi, tu en parlerais facilement ou est-ce que tu en parles facilement ?
J'ai vécu déjà des histoires de santé mentale et c'est vrai que ce n'est pas facile d'en parler parce qu'on a peur de la réaction des autres.
Ouais.
Et aussi, on a peur du coup que ce que l'on ressent n'est pas vraiment ce que les autres ressentent. C'est que du coup, on est les seuls à le ressentir et que du coup, on se sent encore plus seul en exprimant, d'avoir du rejet social. Donc j'avoue que ce n'est pas facile d'en parler.
Ce n'est pas facile d'en parler. Yann Dognon, ces deux témoignages, le fait d'avoir peur justement du regard des autres, de l'incompréhension, c'est quelque chose que vous rencontrez régulièrement chez les jeunes qui viennent vous rencontrer ?
Ouais, je pense que c'est assez symptomatique du regard social qu'on a encore sur la santé mentale. Ouais. Où finalement, si demain je vous dis que j'ai du diabète ou que je me suis cassé le genou, vous n'allez pas porter de jugement particulier sur moi. Par contre, si je vous dis que je suis en dépression, effectivement, il est possible que vous portiez un jugement sur moi. Donc on voit qu'il y a encore un regard social qui est compliqué sur la question de la santé mentale. Pour autant, on voit que des émissions comme celle-ci, ou en tout cas la façon dont vous parlez aussi assez simplement de votre santé, peut être inspirant pour d'autres et pour les générations à venir aussi. Parce qu'en fait, on voit bien que c'est aussi des questions générationnelles et moi, je la trouve cool, cette génération, sur ces questions-là.
Quels sont, selon vous, les plus grands facteurs de stress dans votre quotidien ? Lorsque c'est l'école, les réseaux sociaux, les relations, votre avenir. Alors, c'est vrai que c'est très anxiogène. On est dans une société où, malheureusement, il se passe des choses tout autour de nous qui sont loin d'être... qui montrent un avenir plus ou moins incertain. Est-ce que, Axel, toi, ça te stresse ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a des choses qui te stressent dans ce que j'ai énuméré ? École, réseaux sociaux, les relations avec les autres, l'avenir ?
Alors, il y a un peu de tout, ça se mélange un petit peu. Il y a du stress parce que je suis pas vraiment lycéenne, je suis étudiante avec Julien, on est en BTS, et donc le système de BTS marche par section de partiel à la fin de nos semestres. Et les premières partielles que j'ai faites, il y en a certaines que j'ai ratées. Et j'ai peur quand même de rater les deuxièmes, parce que ça veut dire que je ne valide pas mon année et que je recommence.
Oui.
Donc il y a cette partie-là. Il y a la partie de l'avenir, avec toutes les guerres qui se passent dans le monde, tout ça, qui sont relayées par les réseaux sociaux derrière. Mm-hmm. Moi, me stresse parce que je me dis, ça se trouve, nous, on part d'ici le mois prochain, on part en guerre aussi. Parce que ça commence vraiment à tout dégringoler. Le côté relationnel, ça va être vraiment avec mes parents. Ouais. Il y a eu des moments vraiment où je me suis où ça a clashé fort entre nous. La relation, elle est complexe parce qu'ils ne veulent pas parler de leurs problèmes, même si eux-mêmes, ils en ont. Et moi, au contraire, j'ai besoin de parler de mes problèmes, donc ils ne sont pas capables de comprendre que j'ai besoin de parler ou quoi. Donc la discussion, elle n'est pas du tout ouverte à ce sujet-là. Quoi.
Est-ce que tu aurais un conseil à donner, donc, justement, pour... Est-ce que tu arrives déjà, ce stress, à le maintenir, à l'éviter maintenant, un petit peu avec le temps ? Est-ce que tu arrives un petit peu à le combattre ?
Alors oui, j'y arrive et j'ai trouvé des manières de le faire. En fait, c'est juste de faire des actions mondaines. Juste se lever le matin et faire une action random, du genre se brosser les dents ou prendre soin de soi, c'est à la con, c'est super facile, mais en fait, c'est comme ça qu'on va mieux derrière. Et c'est comme ça que je suis justement, que j'ai réussi justement à sortir de mes problèmes quand j'étais au collège.
Oui.
C'est en faisant des choses comme ça, mondaine, de me prendre soin de moi, de faire des actions qui me plaisent, de partir balader avec mon chien dans la colline. Genre.
Donc ça, c'est des conseils que tu pourrais donner, puisque nous sommes à la radio, des conseils que tu pourrais donner à des personnes comme toi, des jeunes, qui se disent, tiens, qu'est-ce que je suis stressé ? Est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui me permettrait d'avoir de l'occupation, de suite d'essayer de te projeter sur une balade avec ton chien, même de faire comme tu disais, de te brosser les dents.
Vraiment, oui, c'est des petites actions bêtes. Mais en fait, juste de prendre le temps de prendre ces petites actions bêtes, notre esprit va ailleurs et
t'occupe ton cerveau.
Voilà, ça occupe mon cerveau ailleurs que toutes ces choses qui se passent de mauvaises.
Julien, est-ce que pour toi, c'est un grand facteur de stress également, comme ta camarade, l'école, les réseaux sociaux, les relations avec l'avenir, les parents, les voisins, enfin tout le monde, est-ce que c'est un facteur de stress pour toi également ?
Oui, aussi. Y a les notes aussi qui nous disent si on peut réussir ou pas dans la vie. Donc ça met une pression de se dire que si on a des notes inférieures à 10, ça veut dire qu'on ne va pas forcément réussir. Mm-hmm. C'est vrai qu'aussi, les relations sociales, ça peut être aussi compliqué parce qu'on a toujours peur de se faire rejeter des autres, d'être seul et de pas forcément avoir les mêmes centres d'intérêt que ceux avec qui on passe notre journée, c'est-à-dire à l'école ou quoi. Et on peut rencontrer des personnes qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que nous et on peut se trouver du coup bien différent et on peut penser que ça peut être nous le problème du coup de ne pas ressembler aux autres.
Est-ce que toi par contre, comme Axel, tu as quelque chose qui te permet ou un conseil que tu pourrais donner à d'autres qui te permet de passer au-dessus de ce stress que tu peux avoir momentanément ? Est-ce que tu as quelque chose, un petit conseil ou quelque chose pour toi qui te...
Essayer d'occuper son cerveau avec autre chose, par exemple des ballons anti-stress ou quoi qui pourraient permettre du coup de se libérer l'esprit. Faire aussi des occupations, autre chose, pour plus trop penser à ça et essayer de pas trop se renfermer en soi et s'ouvrir au contraire.
S'ouvrir aux autres, continuer à avoir du lien le plus possible, un lien social plutôt que de te replier sur toi-même.
Oui, c'est ça.
Est-ce que les réseaux sociaux, tous les deux, est-ce que, je suppose que vous êtes sur des réseaux sociaux, les deux. Est-ce que là aussi, c'est un facteur de stress ou pas du tout ? Il y a de la bienveillance parce que vous arrivez à faire un tri, je ne sais pas si le terme est exact, s'il est bien choisi, mais est-ce que vous avez de la bienveillance si vous communiquez déjà sur les réseaux sociaux ? Si vous arrivez à communiquer, si vous avez de la bienveillance de la part des autres ou pas ?
Alors, il y a une communication qui est plus simple parce qu'il y a l'idée de l'anonymat sur les réseaux, mais ce n'est pas forcément bienveillant. Moi, je suis beaucoup sur Instagram, donc je regarde pas mal de choses qui passent comme ça. Et en fait, l'idée de l'anonymat, c'est à la fois bien pour réussir à libérer la parole et à la fois pas parce que justement, ça libère trop la parole derrière. Donc quelque chose qu'on pourrait dire va pouvoir être critiqué plus facilement par quelqu'un sur les réseaux.
Et ça, quand tu as une critique, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, qu'il y ait une certaine critique par rapport à toi qui t'est un petit peu dévoilée sur les réseaux sociaux, est-ce que ça te fait mal ou tu arrives à prendre le dessus et y répondre ou tu te dis « je ne lui réponds pas, tant pis, je passe à autre chose et... »
Alors pendant un temps, je répondais pareil, de la même manière, donc je renvoyais une insulte.
Oui.
Et en fait, ça sert tellement à rien, puisqu'ils le font exprès en fait derrière. Ils font exprès de lancer le petit pic pour nous embêter. Donc ça ne sert à rien d'essayer de chercher derrière. Quoi.
Donc maintenant, tu fais fi de...
Je fais fi ou je réponds avec ironie.
Avec ironie. Et toi, Julien, est-ce que ça t'est arrivé de communiquer un petit peu ton petit problème ? Est-ce que la réponse qui est faite, elle te convient ou pas ? Ou est-ce que déjà, tu as eu des attaques personnelles sur les réseaux sociaux par rapport à si tu as communiqué sur ça ?
Oui, j'ai les réseaux sociaux, j'ai communiqué. Et c'est vrai que ben, des fois, quand dans les commentaires des vidéos, il y a des sujets qui me semblaient importants dans la vidéo et que ben, je voyais dans les commentaires que ce n'était pas la chose qui ressortait. Mmh. Donc moi, j'ai voulu en parler. Et les personnes, elles n'étaient pas toujours bienveillantes. Au contraire, il y avait plus de commentaires qui disaient que ben, ce que je disais n'avait soit rien à voir avec le sujet de la vidéo, soit que ce n'était pas du tout ce qu'il fallait que je dise et qu'ils en avaient un peu rien à faire de ce que je pouvais penser, quoi.
Et donc maintenant, tu commentes plus, tu réponds plus toi aussi comme
ça? Si, t'as... je commente ouais, toujours, je garde mon avis et mon opinion, ouais. Et si ça ne plaît pas aux autres, eh ben, je leur fais savoir.
Que tu leur fais savoir. Yann Dognon, est-ce que, déjà, est-ce que les adultes comprennent déjà, parce qu'on voit un petit peu, ça ressent un petit peu le côté des adultes qui ne comprennent pas toujours, et les réseaux sociaux, puisque génération, les réseaux sociaux, est-ce que ça a vraiment un impact aussi important que cela? Parce qu'ils ont, ils ont parlé de l'école, ils ont parlé des réseaux sociaux, parlé des relations, ils ont brossé un petit peu tout l'ensemble de ma question. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi? Est-ce que c'est les témoignages? Est-ce qu'ils vont dans ce sens également que vous avez?
Oui, oui, je pense que c'est les, enfin, des témoignages qui sont assez symptomatiques. Il y a beaucoup de choses, enfin, sur les études, l'état du monde, que vous voyez aussi à travers les réseaux sociaux, mais en fait, qui sont les thèmes de fond. Les réseaux sociaux, faut, je pense, faut le prendre vraiment comme un médium, un canal finalement qui vient donner les mêmes informations que la télé, les journaux pouvaient le faire avant, tout en se rappelant que c'est quand même des entreprises privées aujourd'hui qui possèdent ces réseaux sociaux, et donc il y a une espèce d'économie de l'attention et des stratégies pour qu'on passe de plus en plus de temps devant. Mais en fait, les questions que vous soulevez, c'est des questions d'ailleurs qui influencent notre santé mentale et qui sont des facteurs exogènes. Voilà, vous avez parlé de l'orientation, des études, de la guerre, de l'état du monde, des relations familiales, des relations sociales, amicales. En fait, finalement, on voit bien que c'est des questions qui ne sont pas intrinsèques à nous, c'est des choses qui nous influencent, et c'est ça qui va venir impacter notre santé mentale. Donc après, voilà, chacun a ses petites stratégies, j'aime bien les vôtres, j'ai à peu près les mêmes.
Elisabeth, on peut le dire, enseignante?
Oui, tout à fait. Nul n'est parfait.
Le facteur de stress, on vient de l'entendre, l'école, la notation, c'est quelque chose que les élèves vous rapportaient justement
Oui. Ouais. Oui, alors c'est vrai qu'après on a chacun ses pratiques. Personnellement, j'ai toujours essayé je le dis comme ça, et je crois que je suis arrivée à le faire, de dédramatiser la note, parce qu'il en faut une, hélas, mais de ne jamais me centrer sur la note. J'ai toujours essayé de parler avec les élèves, de généraliser, parce que bien souvent, en plus... je peux le dire maintenant, puisque je suis à la retraite, ça m'est arrivé parfois, des élèves que je voyais en difficulté, qui travaillaient, de mettre les deux points qui permettaient d'atteindre la moyenne.
La moyenne.
Et là, il y avait un tel sourire, c'était gagné, quoi. Ouais. Et à un moment donné, une note, c'est... Et arriver à faire comprendre qu'une note, c'est pas la personne, c'est un instant T, c'est un travail. Ne pas oublier non plus que quelquefois, ben, on n'a pas travaillé, on n'a pas eu envie. Voilà, donc on a tous eu des mauvaises notes parce qu'on n'avait pas travaillé, pas révisé. Et c'est pas le drame d'une vie, quoi. Oui. C'est une note à un instant, et c'est pas ce qui va nous pointer du doigt à vie et nous marquer. Je crois que c'est important dans le discours des enseignants de faire passer ça, quoi. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Modestement.
Merci Elisabeth. Pour conclure sur les réseaux sociaux, aussi bien Axel que Julien, est-ce que c'est un soutien ou une pression, ou un mélange des deux, les réseaux sociaux, à votre avis?
Ouais, c'est Axel. Un mélange des deux, puisqu'il y a des posts qui sont super bienveillants et qui le restent jusqu'au bout. Donc il y a vraiment des personnes qui sont là pour rendre la vie des gens meilleure,
oui.
Pour poster ce qu'eux ils font de bien et ce qui se passe de bien quand même aussi, et ce qui peut être bien. Et il y en a d'autres derrière qui vont essayer de détruire. De détruire justement ce cercle de bienveillance qui est censé se créer avec les réseaux sociaux, puisque à la base, les réseaux sociaux, c'était justement de pouvoir discuter avec des gens, de pouvoir partager sa culture, son savoir à d'autres gens dans d'autres pays. Donc, ce qui est incroyable quand même, parce que, genre, rien que moi, en postant sur un post de quelqu'un en Amérique, je peux répondre avec quelqu'un en Chine, quoi.
Bien sûr.
C'est ça qui est incroyable. Mais derrière, il y a forcément, du coup, les gens qui vont vouloir détruire les choses qui sont bienveillantes, puisque eux-mêmes ne le comprennent peut-être pas forcément que c'est des choses bienveillantes, ou qui veulent juste pas que d'autres gens aient de la bienveillance aussi. Ça, c'est y en a partout, malheureusement, des gens comme ça. Donc, il faut juste savoir faire abstraction de ce qui n'est pas bienveillant, de savoir ce que nous, on peut prendre, qui est bien pour
le positif.
Voilà, prendre le positif.
Pour Julien, est-ce que c'est une pression, un mélange des deux, ou un soutien?
Ben, je pense que c'est vraiment aussi un mélange des deux, mais je pense qu'en fait, vu que la pression, elle est plus intense que les vidéos bienveillantes, du coup, c'est ce qui nous marque plus sur les réseaux. Ouais. Dès qu'on voit une vidéo qui nous... En fait, ça nous marque plus des vidéos qui vont être avec de la pression, ne serait-ce que de voir des personnes qui ont un cercle d'amis bien grand, qui ont aussi une vie bien faite. Ça nous met une sorte de pression de nous dire que notre vie, elle ne ressemble pas forcément à ça. Et donc, du coup, on a cette pression continue. Et même s'il y a certaines posts qui vont nous dire que ces vidéos sont souvent des mises en scène, c'est pas forcément toute leur vie qui ressemble à ça, elles nous impactent moins et nous marquent moins que les vidéos qui nous montrent la vie parfaite que tout le monde aimerait avoir.
Yann Dognon, par rapport à ces deux témoignages.
Toujours la même chose avec les réseaux sociaux. Effectivement, je pense qu'il y a à boire et à manger. Il faut faire attention à ce qu'on regarde, les sources, ouais. Faire attention à bien fact-checker les choses. Et c'est un outil. Donc, ça dépend de comment est-ce qu'on l'utilise et de comment est-ce qu'est programmé notre algorithme en fonction de ce qu'on regarde.
Faire abstraction des mauvais commentaires, en fin de compte.
Oui, et en même temps, notre cerveau, il est programmé pour pouvoir s'accrocher à ces choses négatives. C'est un réflexe aussi, à un moment donné... face au stress, un réflexe de protection et donc il vaut mieux faire attention à effectivement comment on programme son algorithme avec ce qu'on regarde que finalement à s'attacher à des choses qui peuvent attaquer notre santé mentale. Mais c'est un exercice.
Un exercice. Julien, Axel, en tout cas, merci pour votre témoignage à tous les deux. Axel, quelle classe, BTS ?
Première année DATR, c'est développement animation de territoires ruraux.
Merci Axel et Julien.
Première année de BTS aménagement paysager.
Aménagement paysager. Ben, en tout cas, merci pour votre témoignage parce que c'est pas facile. Merci vraiment, la parole était libre et vous en êtes. C'est ce que vous avez fait. Merci beaucoup en tout cas. On se fait une pause musicale puis on va recevoir deux autres de vos camarades pour prendre la suite de cette émission. Merci en tout cas à tous les deux.
Tu m'as trop souvent dit que t'aimais mes yeux, que t'aimais nos nuits. Maintenant j'ai l'heure d'une folle mascara d'école. Tu m'y as fait croire, mais t'es qu'un. Tu m'as cassé en deux et moi j'ai appris que j'irais mieux. Mais là j'ai trop le seum et je suis bien trop jeune. Moi je nous trouvais trop beau, mais t'es qu'un. S'il y a une chose que je veux, c'est pour les chiens. S'il y a une chose que je veux retenir, c'est que pour aller mieux, faut savoir finir. S'il y a une chose que je sais trop bien, mais reste fait pour les chiens. Tu vois, t'as tout perdu, ta vie, nos amis, ça confond. Ça fait, j'étais ton petit chaton, mais t'es qu'un. Je te vois déjà me dire que t'as changé. Je te vois déjà vouloir recommencer. Mais qu'est-ce que tu crois? Je ne reviendrai jamais. Non, je ne reviendrai jamais. S'il y a une chose que je veux, c'est pour les chiens. S'il y a une chose que je veux retenir, c'est que pour aller mieux, faut savoir finir. S'il y a une chose que je sais trop bien, le reste c'est fait pour les chiens. Reste
La Mutualité Française Sud, délégation de Vaucluse, vous présente les Live Santé sur RTVFM.
Les Live Santé de la Mutualité, voilà, sur RTVFM, de retour après cette petite pause musicale. Toujours avec Yann Dognon, accueillant, écoutant au point écoute le passage PAEJ à Carpentras. Rebonjour.
Rebonjour.
Toujours avec Elisabeth Ansberger, présidente de la Mutualité Française, délégation de Vaucluse. Rebonjour Elisabeth.
Rebonjour.
Après Axel et Julien, qui nous on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé de pas mal de choses, très intéressant. Franchement, deux jeunes qui sont intervenus, BTS et première année aussi également. Donc, et là, nous avons deux autres des jeunes filles qui nous rejoignent juste à l'instant. Nous avons Eya et William. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Quelle classe en cœur toutes les deux. Quelle classe, Eya?
Je suis en terminale SAPAT, service aux personnes et animation des territoires à Serres, du coup, juste à côté.
Oui, tout à fait. Merci. Et William?
C'est pareil.
Même classe?
Ouais.
Vous êtes ensemble toutes les deux.
Ouais.
En tout cas, merci de venir dans les micros. Ce n'est pas toujours facile de venir témoigner. Alors, vous avez entendu un petit peu vos petits camarades, quand on parle de la santé mentale des jeunes, qui ont parlé un petit peu, ils se sont exprimés. Est-ce que, peut-être pas vous reposer les mêmes questions, mais peut-être un petit peu pour conclure sur les réseaux sociaux. Est-ce que, je suppose que toutes les deux aussi, vous êtes sur les réseaux sociaux, comme tous les jeunes. Est-ce que vous arrivez à prendre du recul, vous, sur les réseaux sociaux? Et est-ce que vous y arrivez, déjà, à prendre du recul ou pas? Par rapport à tous les témoignages qu'il y a eu, par rapport au soutien, pas soutien, et est-ce que vous arrivez à couper des réseaux sociaux, déjà?
C'est-à-dire que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un peu tous les jeunes qui les ont.
Oui.
Et personnellement, tout ce qui est lié à la haine ou quoi que ce soit, ça ne m'est jamais arrivé, parce que je suis quelqu'un qui arrive à passer outre.
Oui.
J'arrive facilement à bloquer une personne si elle m'embête. C'est que je vais pas m'attarder sur quelqu'un qui va venir m'embêter dans ma vie. J'ai pas vraiment que ça à faire d'écouter quelqu'un qui va venir me critiquer ou même me rabaisser. Je vais pas m'attarder sur cette personne-là.
Voilà, pour vous, c'est pas quelque chose qui va vous faire.
C'est ça.
Vous avez pas passé la journée à vous
exactement.
Dire. Voilà, c'est le cas. Et pour Aya également.
Alors moi, les réseaux sociaux, c'est pas un endroit où je vais aller me confier.
Oui.
Je me mets.
Si vous voulez du soutien, donc on en parlera après, c'est pas sur les réseaux sociaux.
Jamais sur les réseaux sociaux.
D'accord.
Pour moi, c'est juste un endroit où je construis mon cocon.
Oui.
Je ne laisse personne venir empiéter sur mon espace personnel.
D'accord. Oui.
Donc j'ai pas de mal à rejeter quelqu'un qui vient attiser la haine, en fait.
Alors justement, vous me tendez la perche quand vous n'allez pas très fort. Alors qu'est-ce qui vous aide à reprendre le moral? C'est quoi, des activités, votre famille? Qu'est-ce qui vous soutient et comment vous faites? Qu'est-ce que vous avez une recette?
Alors, c'est pas la famille, mais en fait, c'est de faire quelque chose qu'on aime, quelque chose qui nous donne du plaisir. Mais aussi, j'aime beaucoup, pour aller mieux et pour parler, pour aller au point écoute. Je vais beaucoup là-bas, quand ça va pas.
Oui.
Ils m'ont beaucoup aidé à aller mieux, à voir la vie différemment, et surtout à apprendre à me connaître. Le plus important de quelqu'un qui va pas bien, c'est apprendre à se connaître et à savoir ce dont on a besoin. Parce que c'est comme ça qu'on va savoir comment avancer et comment évoluer.
Alors, Eya, je rebondis également là-dessus. Vous avez donc, vous me dites le PAEJ, le point écoute, le passage, parce que vous avez été bien pris en charge, en compte dès le départ.
Oui.
Contrairement au témoignage que nous avons eu tout à l'heure d'Axel, où le premier abord, le professionnel, ça ne s'est pas réellement bien passé. Donc, il y a vraiment de l'importance d'avoir ce premier contact que vous avez avec le.
Ah oui, ça a été super important. Au début, je connaissais déjà. Là-bas, mais en fait, j'y allais pas vraiment.
Oui.
En fait, à un moment dans ma vie, c'était vraiment très. C'était des montagnes russes un petit peu.
Chaotique.
Voilà, c'était très chaotique et je me suis dit pourquoi pas y aller.
Oui.
Faire une première expérience, ne pas écouter les autres, parce que les autres ont des expériences différentes.
Différentes.
Et moi, ça a été directement une safe place, ça a été un endroit où j'ai aimé me confier.
Oui.
Il n'y avait pas de jugement, on est dans l'anonymat, ça a été. Moi, j'ai pas de mal à parler de ce qui va pas, mais pas à n'importe qui. J'ai pas vraiment besoin d'un professionnel psychologue ou psychiatre, juste besoin de quelqu'un d'assez conscient, d'assez lucide et qui a assez de maturité pour comprendre ce que je ressens sans vraiment me juger.
L'accueillant écoutant que vous êtes, quand vous entendez cette. Ça peut que vous faire plaisir et vous conforter dans la façon dont vous vous comportez donc au PAEJ à Carpentras.
Bah oui, ça fait vachement plaisir. Merci pour le compliment. Et puis, alors, je le dirai à la personne qui t'accompagne.
Oui.
Ça lui fera plaisir, je pense. Et effectivement, après, alors je pense avec les professionnels, c'est une question de rencontre. Nous, le cadre anonyme et confidentiel dans lequel on travaille permet effectivement d'articuler à un moment donné ces événements de vie, ces émotions et la question de l'adolescence. Donc effectivement, une période de la construction identitaire où c'est très important aussi de pouvoir explorer, en fait, finalement, ce dont on a besoin, ce dont on a envie, tester des choses, déculpabiliser aussi sur les notes, les orientations, etc., qui peuvent apparaître à un moment donné comme un fardeau, comme une pression insurmontable pour les jeunes. Maintenant, on parlera après peut-être des solutions, mais en tout cas, tout un chacun est le bienvenu au passage. Et voilà, vous serez reçu de façon anonyme et confidentielle et gratuite, autant de fois que vous le souhaitez.
Oui, M, est-ce que pour vous, quand ça ne va pas très fort, qu'est-ce qui vous aide à reprendre, à prendre le moral des activités, des personnes, des habitudes, ou alors des conseils aussi, des soutiens, lesquels ?
Au début, j'étais vraiment, c'était il y a une année de cela, j'étais vraiment dans une détresse profonde. C'est vraiment la première fois que j'étais dans ce genre de situation, et je pensais vraiment être au bout du gouffre et que je pensais vraiment être comme ça toute ma vie. Cependant, je me suis, dès la première visite médicale qu'on a eue au lycée, pour moi c'était un échappatoire, il fallait vraiment que j'en parle, il fallait vraiment que je trouve quelqu'un parce que je rentrais dans un état de panique, ouais, je rentrais dans un état de panique et je me suis dit qu'il fallait vraiment être dirigé. Et quand j'en ai parlé, l'infirmière m'a directement dit qu'il fallait que j'aille quelque part et elle m'a dit que je connaissais déjà le point écoute mais que j'y allais pas et en fait j'osais pas vraiment. J'y suis allée, j'ai pris mon courage à deux mains, j'y suis allée et aujourd'hui je suis quelqu'un d'autre, je vais très bien. À part quelques petits soucis, mais je vais très bien. Je suis devenue quelqu'un d'autre. Avant, j'étais très, très anxieuse, très. Je me laissais. Vraiment, j'étais. En dessous. Vraiment, comparée aux autres. Oui, je me comparais tout souvent aux autres. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi. J'arrive à me foutre du regard des gens. J'ai vraiment changé.
Donc tout ça, ça vous a permis d'avoir un soutien justement, ce soutien apporté par le PAEJ s'appuie pour toutes les deux, on le voit, le témoignage il est positif. Mais pour mieux vous accompagner aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui manquerait ? Qu'est-ce qui manque pour encore mieux vous accompagner quand vous avez des difficultés comme ceci ? Peut-être au départ ou dans la continuité, est-ce que pour vous il manque quelque chose et quoi ?
Je pense que, aujourd'hui je pense que vraiment ce qui est dommage c'est que vraiment j'ai pas vraiment tout le soutien de ma famille. Ce serait vraiment d'avoir une famille ou même des amis. Bon, j'arrive à un stade où j'ai plus vraiment d'amis, heureusement que j'ai ma sœur. On essaye de se relever chacune l'une l'autre, mais je pense vraiment c'est d'avoir vraiment une famille, ça peut tout compléter. C'est un cocon, c'est avoir un soutien immense. Et la famille, c'est si j'avais vraiment le soutien de ma famille, je pense que je ne serais pas allée au passage. C'est juste un manque d'écoute. Ou même se trouver une passion. Oui. On peut se réfugier dans... Par exemple, je me réfugie dans l'écriture. L'écriture, ça m'a beaucoup aidée. Je me suis retrouvée là-dedans. J'écris quand ça ne va pas. Je sais poser les mots. Alors qu'à l'oral, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense même trouver une passion, ça aide beaucoup.
Ça aide beaucoup aussi. Et pour Eya, est-ce que pour mieux vous accompagner, qu'est-ce qui vous manque ou qu'est-ce que...
Je dirais en premier, la famille.
La famille aussi, oui.
C'est un endroit où on est souvent à la maison, donc on est souvent entouré de notre famille. Mais je dirais aussi, comme j'ai dit, il faudrait vraiment savoir parler. Des fois on n'ose pas vraiment parler, bien sûr il ne faut pas parler à n'importe qui, quelqu'un de confiance, et juste se dire quand je vais parler à cette personne, j'ai pas envie qu'elle me juge, j'ai seulement envie de vider mon sac. C'est juste la pression psychologique de quand on ne parle pas, ça nous détruit vraiment de l'intérieur.
Tout à fait, oui.
Donc trouver quelqu'un de confiance juste pour parler, pas seulement pour que la personne prenne en compte forcément, seulement pour parler et ne pas se sentir jugé, c'est juste important pour vider son sac. Ça décompresse le corps, oui. Et ça fait du bien mentalement. Même trouver une passion, comme ma sœur l'a dit, moi c'est plutôt les livres à travers des ouvrages de psychiatres et de psychologues, mais c'est aussi l'écriture. Ça permet de poser des mots sur mes mots, mais aussi ça permet de m'évader. D'aller dans un autre monde qui est plutôt mon cocon et il n'y a personne du monde extérieur qui vient vraiment envahir mon monde.
Alors vous êtes de jeunes adultes, peut-être de futures mamans un jour. Est-ce que pour vous justement de voir le comportement de la famille, des adultes qui ne prennent pas en compte par leur éducation sûrement et leur culture, qui ne prennent pas assez en compte les problèmes que vous pouvez avoir, est-ce que pour vous ça vous aura apporté quelque chose dans votre culture et que vous allez pouvoir avec vos enfants vous y prendre peut-être différemment ?
Moi, je pense que je pense vraiment que si jamais un jour je viens être maman, je serai mon plus possible, je ferai passer la confiance. C'est fondamental d'avoir un lien avec, sachant que si je peux être la seule bouée de secours de mon enfant, je le serai. il faut vraiment être présent parce que c'est super important. On est toujours avec sa famille. Ça peut être vraiment nos seuls amis, voire notre famille. Donc, et je pense vraiment que je serai là. Je pousserai, même si ce n'est pas avec moi que ma fille ou mon fils se sentira le mieux, je pousserai à parler, à l'emmener, à voir quelqu'un parler. Pour moi, c'est super important. On se construit dans un foyer. Et même si mon enfant ne se sent pas vraiment capable de parler avec moi, je veux juste qu'à la maison, ça soit son cocon. Ouais. Qu'elle vienne se réfugier à la maison si dehors, elle se sent mal. C'est vraiment, pour moi, c'est important.
Et il y a également ?
Si j'étais maman, du coup, je prioriserais vraiment la santé mentale de mon enfant parce qu'aujourd'hui, plus on avance dans notre génération, moins la santé mentale est prise en compte, je trouve. Et surtout que personne ne prend soin de la santé mentale entre nous. On ne prend pas soin de notre santé mentale entre nous. Donc, je trouve ça vraiment important que si j'ai un enfant, vraiment, il trouve cette personne ou cette chose qui pourrait l'aider. À évacuer, à aller mieux. Si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre ou ce sera quelque chose, une passion, quelque chose qu'il aime faire ou juste être cette personne, être avec moi, juste que mon enfant n'ait pas peur de parler avec moi et n'ait pas peur de vider son sac. J'ai pas envie que mon fils ou ma fille se sente différent. Parce que même moi, je me sens différente, je suis très singulière par rapport aux personnes de mon âge. Ça a été une étape super compliquée. Mais on peut dépasser ça. On peut tout passer, mais par contre, ça prend du temps. On prend chacun notre temps à notre manière. Et je prendrai vraiment ce temps-là pour mon enfant, pour lui dire qu'il a le temps. Et je lui mettrai jamais la pression sur sa santé mentale, jamais.
Yann, les jeunes qui viennent vous voir, ou les problèmes justement, les parents qui ressortent ce côté qui n'a pas le lien, je ne sais pas comment on peut l'exprimer, mais c'est que on voit que des générations qui ont du mal à se comprendre entre le monde des adultes et les jeunes adultes qui sortent de l'adolescence, qui sont jeunes adultes, on voit que des fois, ils ont du mal à se comprendre, à s'écouter. Et la différence, comment on fait tout ça, vous le ressentez, vous l'avez, quand ces témoignages, vous les avez également.
Non, là, énormément, effectivement, le témoignage que vous livrez, le fait d'avoir des difficultés à pouvoir parler en famille de ce qu'on traverse, c'est effectivement et je pense que les générations d'avant traversaient exactement la même chose, mais effectivement, l'adolescence, c'est une période de la séparation. Hein, quand on dit la crise d'adolescence, en fait, nous, on la juge négativement, mais crisis, en grec, c'est la séparation. On commence à être de plus en plus singulier, vous l'avez cité comme mot, la singularité. Je pense que c'est ça qui est important, on est tous uniques. Et le fait de cultiver cette singularité, des fois, dans le cercle familial, c'est un petit peu dur. On est un peu absorbé, on est un peu... Voilà, on se fond là-dedans. Maintenant, il y a aussi une question, effectivement, malheureusement, on a plein de jeunes qui ne sont pas écoutés, qui ne sont pas compris, où les parents n'arrivent pas à se mettre à leur niveau, ou en tout cas, ou alors projettent des choses sur eux et ne sont pas en capacité, à un moment donné, de faire exister les émotions, voire même une certaine forme de souffrance qui peut exister chez certains jeunes. Donc voilà, il y a des institutions comme la nôtre, il en existe d'autres, on les passera en revue, mais effectivement, le but, c'est de pouvoir aussi trouver des ressources dans vos entourages. Vous parliez aussi des initiatives entre nous, l'initiative en santé mentale communautaire, ce qu'on appelle, existe partout sur le territoire. Bah voilà, c'est sûr que quand on est une femme, on est plus sujet à des problématiques de santé mentale. Comment est-ce que les femmes entre elles peuvent s'entraider quand on est une personne racisée? Comment on fait quand on est une personne transgenre? Comment est-ce qu'on fait pour s'entraider aussi, trouver des solutions communes? C'est une vraie question aujourd'hui sur la santé mentale.
Merci en tout cas, Eya et William, d'avoir témoigné, parce que c'est quand même un beau témoignage également. Donc merci encore toutes les deux. On se fait une petite pause musicale, puis on va retrouver deux autres de vos camarades pour continuer notre émission sur la santé mentale des jeunes. Merci beaucoup en tout cas.
You should see the way the stars illuminate your stunning silhouette. You're glowing in the dark. I had to count to 10 and take a breath. You think that you don't have beauty in abundance, but you do. And that's the truth. You're frozen in motion, a perfect picture in a frame. Some visions don't ever fade. I don't need a camera to capture this moment. I'll remember how you look tonight for all my life. When everything is black and white, your colors exploding. There's something in the way. I don't need a camera.
You should see the way this night is unfolding beautifully for us. It's getting late, but I don't mind. We'll take this in until the sun comes up, and I think that what we have is like every dream I had came true, lying here with you. A photo could not show the way my heart is beating, babe. Some visions don't ever fade.
Toujours les lives santé de la mutualité. Aujourd'hui, c'est une émission qui est consacrée à un sujet essentiel, la santé mentale des jeunes. Et face à ce constat, et pour en débattre, nous avons choisi aujourd'hui de donner la parole à celles et ceux qui sont les premiers concernés, les jeunes. Ils sont lycéens, ils sont même étudiants au campus Provence-Ventoux qui est situé sur la commune de Carpentras-Serres. Et depuis tout à l'heure, ils témoignent, ils apportent leur témoignage sur cette santé mentale, sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent. Et pour cela, pour m'accompagner, nous avons toujours Yann Dognon, qui est accueillant, écoutant au point Écoute Jeune Le Passage, PAEJ, et toujours Elisabeth Hansberger, qui est la présidente de la Mutualité Française, délégation de Vaucluse. Et là, nous recevons maintenant Loïc. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Et j'aurais dû commencer par ta petite camarade, c'est Luna. Bonjour Luna.
Bonjour.
Ravi de vous avoir tous les deux. Alors vous avez vu, on a posé pas mal de questions à vos petits camarades tout à l'heure. Peut-être vous posez un peu la même question. Est-ce que vous êtes concerné par ce problème justement de santé mentale? Est-ce que vous avez des moments où vous vous sentez un petit peu déprimé ou ça ne va pas réellement? Je commence par Loïc peut-être.
Dans mon cas, moi, généralement, ça va beaucoup mieux. Mais c'est que j'ai justement le témoignage de mes potes qui évidemment stressent énormément à l'école à cause du système de notes, à cause d'une pression ou d'une attente trop grande qui se mettent. Comme moi, je l'ai eu
Il y a fait une époque.
Quelques mois, voilà. Ouais. Mais et si on peut revenir aussi sur le sujet des réseaux sociaux, c'est assez... Encore une fois, c'est vraiment très, très, très varié.
Oui.
Vous pouvez juste reposer la question.
Non, mais on va en parler des réseaux sociaux. Par contre, tu nous dis qu'effectivement, toi, il y a quelques mois, tu étais un petit peu dans cette problématique, si je peux l'appeler comme ça.
Oui, on peut dire ça.
Comment est-ce que tu as réussi justement à passer un petit peu au-dessus? Parce que tu allais nous dire que ça va bien mieux, mais que tu as tes petits camarades à côté, que voilà, tu en as quelques-uns autour de toi qui se mettent trop la pression, qui stressent. Comment tu as fait, toi, pour passer un petit peu le cap?
Pour ma part, évidemment, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre plusieurs psys, et notamment aussi le point écoute à Carpentras, quand j'étais encore dans l'autre lycée à Carpentras, avant que j'arrive à Louis Giraud.
Oui.
Et en fait, juste, il fallait que je revoie un peu mes attentes, de ne pas viser trop haut, pour ne pas trop m'infliger de stress, juste pour de bêtes examens qui servent juste à noter la prestation, pas la personne.
Pas la personne, oui.
C'est ça le plus important. Et... depuis pas mal de temps, juste, j'y vais beaucoup plus à la légère. Je ne me flèche pas de trop gros stress, de trop grosses attentes. Voilà, j'y vais un peu plus à la légère. Je me sens beaucoup mieux. Évidemment, les notes ne sont pas trop en rendez-vous, mais ça n'a pas trop changé de ce côté-là. Mm-hmm. Donc, c'est plus gratifiant de voir que, malgré toutes les étapes qui me sont arrivées, scolairement parlant, moi, j'y arrive, contrairement à d'autres potes qui ont toujours de très bonnes notes. mais dont la santé mentale ne suit pas forcément.
Alors tu dis qu'elle ne suit pas forcément, c'est que toi tu en avais parlé à un moment donné quand tu as eu ce moment de blues, est-ce que autour de toi tu en avais parlé, est-ce que maintenant justement tu soutiens un petit peu tes camarades et vous en parlez entre vous ?
J'en ai parlé à plusieurs personnes, bah, notamment mes amis du lycée à Carpentras, mes amis de Giro quand j'ai commencé ma rentrée, mes parents évidemment qui ont toujours été là pour moi, les psychologues. Et ouais, après, c'est compliqué là aussi parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'ai 17 ans. À partir de mes 13 ans, j'ai commencé à avoir ce gros problème. Donc, il y a 5 ans, quoi, ce n'est pas rien. Donc oui, ça a dû prendre beaucoup de temps avant qu'il y ait d'abord une relation de confiance entre moi et ces mêmes amis, ainsi que mes parents et surtout des psychologues que je ne connaissais pas. Donc non, le temps qu'il y ait cette relation de confiance, c'était très long. Ça m'a pris au moins un an ou deux ans, le temps que je sorte justement de mon fameux blues que j'ai eu à l'époque. Et maintenant que je fais beaucoup plus confiance à ces personnes, que je sais qu'elles sont là pour moi et que je suis là en retour pour elles, c'est beaucoup plus facile de parler. D'en parler en tout cas, et de conseiller aussi, notamment à ces amis qui ont eu un peu le même problème que moi j'avais à l'époque.
Ça te permet, en ayant vécu ce problème-là, de pouvoir les conseiller. Tu es toujours suivi actuellement ?
Non, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je n'en ai plus besoin et voilà.
Par contre, maintenant, tu donnes les conseils à tes...
Voilà, oui. Je suis bien placé pour le savoir et je fais ce qu'il faut pour eux.
Merci. Luna, est-ce que tu es justement... tu fais partie de ceux qui ont un peu du... Comme je disais, j'emploie ce terme qui va peut-être faire sourire notre professionnel, ce coup de blues. Est-ce que tu es dans cette problématique ou pas ?
Il faut savoir que depuis la primaire, je me fais harceler tout ça, donc oui.
Donc voilà. Tu subis des harcèlements, toi, depuis l'école primaire ?
Ouais. Là, ça s'est arrêté au lycée, donc c'est plutôt cool. Oui. Mais sinon, oui, j'ai eu une grande période.
Tu as eu une grande période à ce niveau-là. Et est-ce que tu en as parlé à tes parents de suite de ce problème-là, ou tu l'as subi pendant longtemps sans vraiment en parler, ou est-ce que tu t'es confié de suite ? Est-ce que tes parents ont été à l'écoute ? Est-ce qu'ils t'ont dirigé vers des professionnels ou pas ? Comment ça s'est passé, ton parcours ?
Au début, j'en parlais directement à ma mère, puis j'ai arrêté. Je ne sais plus pourquoi, mais j'ai arrêté.
Parce que tu sentais peut-être qu'il n'y avait pas
l'aide qu'il fallait ou autre. Ensuite, j'ai vu des professionnels. Là, ça fait 3 ans que je suis avec un psy. Donc, tout se passe bien, tout ça.
Quel âge as-tu maintenant ?
J'ai 15 ans.
Tu as 15 ans, Luna. Donc, tu viens de dire que ça s'est arrêté. Là, tu es passé au lycée. On dit le campus Louis Giraud. Maintenant, c'est Provence Ventoux, mais bon, on l'appelle toujours Louis Giraud. Tu dis que ça s'est arrêté, ou c'est toi maintenant qui ne fais plus... tu fais plus attention ou...
Ah non, ça s'est vraiment arrêté.
Ça s'est vraiment arrêté. Est-ce que tu fréquentes les réseaux sociaux ? Est-ce que tu as subi aussi sur les réseaux sociaux ce harcèlement ?
Sur les réseaux sociaux, j'y suis, mais sans plus. Donc, j'ai pas ce problème, moi, d'être harcelée ou autre sur les réseaux sociaux.
Tu n'étales pas, tu es quelqu'un qui n'étale pas ta vie privée sur les réseaux sociaux, ou tu te livres facilement sur les réseaux sociaux, non ?
Non, j'étale. Non, j'étale pas ma vie parce que ça rend un peu à rien, je trouve.
Ouais.
Et puis les autres n'ont pas forcément besoin de savoir.
D'accord. Tu as toujours besoin d'un petit peu de soutien, tu nous as dit. Tu es toujours suivi actuellement ?
Oui.
Est-ce que tu penses que pour toi, ça va continuer ? Qu'à un moment donné, tu te dis non, maintenant, ça y est, un peu comme Loïc, je sens que j'ai passé le cap, je vais pouvoir un petit peu... Non ?
Non, je pense que ça va continuer.
Ça te rassure ?
Oui.
Alors Yann, quand on entend Luna qui dit que ça la rassure, qu'elle veut continuer un petit peu, qu'est-ce que vous conseillez justement à un jeune de continuer quand même d'avoir un suivi pendant encore quelques temps, d'être sûr de lui ? Comment ça se passe en général quand un jeune vous dit voilà, ça y est, je pense que j'ai terminé, je n'ai plus besoin de venir vous voir ?
Alors après, nous, on n'est pas sur la question thérapeutique.
Non, on est d'accord.
Effectivement, moi, je ne fais pas le travail
d'un psychiatre
ou d'une psychologue, ou d'un psychologue. Donc, je ne vais pas comparer. Mais en fonction de la problématique qu'on amène, de ce qu'on appelle la demande. En fait, en général, on vient avec une demande. Voilà, par exemple, si je peux reprendre ton exemple, oui. Luna, le harcèlement scolaire. Voilà, je suis victime de harcèlement scolaire. Ça crée des souffrances en moi, voire même ça peut altérer mon rapport à l'autre, ma confiance en le monde. Et c'est via cette demande-là. Implicite ou explicite, qu'une démarche de soins est enclenchée. Nous, on vient plutôt dans le recueil de cette parole, on est moins sur cette question thérapeutique. Le but, c'est d'abord de faire exister le vécu de la personne, de la croire, et de voir un petit peu quelles sont ses ressources personnelles ou professionnelles autour d'elle, et de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut l'orienter en fonction de la question. Par exemple, sur le harcèlement scolaire, nous, on travaille beaucoup dans le cadre du programme phare, qui existe dans les différents établissements, qui marche ou qui marche pas, tu me diras Luna, mais en tout cas le but là-dedans aussi, c'est de pouvoir avoir des approches qui sont pas uniquement dans l'entretien individuel. Voilà, des fois on a l'impression que l'entretien individuel c'est une question très de psychologue.
Oui.
Nous c'est aussi principalement notre travail, mais on peut intervenir sur du collectif, Et ça, c'est, voilà, pour le suivi, ça dépend vraiment des personnes. Le tout est de laisser la libre adhésion. Voilà. Et c'est de se dire qu'à un moment donné, on peut rester disponible. Je pense que je vais rebondir sur ton exemple premier. C'est de se dire que voilà, au moment où les symptômes de mal-être ou de souffrance sont soulagés, ou en tout cas cette question, par exemple, là, tu parlais des attentes de l'école et du stress qui est lié finalement aux notes à partir du moment où cette souffrance n'y est plus. Moi, voilà, je ne suis pas dans cette question thérapeutique où tu pourrais aller travailler des choses beaucoup plus profondes, par exemple. Voilà, là, ça s'arrête, tu ne veux plus venir. Écoute, le but, c'est de rester disponible et d'être à l'écoute si jamais il y a une autre question.
Loïc, je me permets aussi de rajouter quelque chose, c'est que justement, la santé mentale, elle n'est pas à négliger. Mais encore une fois, là aussi, c'est très varié parce que là, on traite vite fait de problèmes. Mais justement, d'autres problèmes par rapport à ça, par exemple, à des élèves qui sont victimes de phobies scolaires. Là, je parle de cas d'anciens amis que j'ai eus qui, pour qui c'était très compliqué de suivre les cours, qui ont dû redoubler malheureusement, et qui n'étaient pas trop considérés alors qu'ils faisaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour finalement un résultat pas très concluant. Et voilà, encore une fois, c'est vraiment que c'est tous les problèmes qu'il y a sur la santé mentale, le harcèlement, la phobie scolaire ou autre, ce n'est pas à négliger, c'est aussi très, très important.
Très important.
Oh. C'est des facteurs qui peuvent varier justement au stress qu'il y a à l'école.
Est-ce que l'avenir aussi, on l'a légèrement abordé tout à l'heure, est-ce que l'avenir, quand on voit notre société, malheureusement, ce qu'elle reflète, est-ce que pour vous, c'est aussi très anxiogène, Luna, de voir un petit peu tout ce qui se passe? Est-ce que tu es vraiment, ou tu te dis, non, moi je vire un petit peu ma jeunesse, je me mets un petit peu en dehors de ça, je me protège? Ou est-ce que tu suis l'actualité et c'est pour toi un stress aussi également, l'avenir?
Je m'intéresse pas trop à l'actualité parce que je sais que ça peut ou me mettre mal et du coup je préfère me protéger.
Tu te protèges, ouais. Voilà le mot que je voulais entendre, tu te protèges de cela, c'est le conseil que tu peux donner aussi aux jeunes de ton âge, de se protéger de toute cette actualité finalement et de vivre. Alors qu'est-ce que, aussi bien Luna que Loïc, quand vous avez ce moment un petit peu de détresse mentale, qu'est-ce qui vous, pour positiver, quelles sont les initiatives pour toi Loïc, qu'est-ce que tu faisais à un moment donné justement quand tu te sentais un petit peu mal, est-ce qu'il y avait des initiatives, des choses qui pouvaient te redonner un petit peu le moral?
Eh bien, mis à part évidemment parler avec des potes, s'amuser avec des potes, juste passer de bons moments, j'ai une très très grosse habitude de dessiner constamment, que ce soit en cours, pendant la récréation ou chez moi pendant mes heures d'études.
Ouais.
Ça me rassurait de pouvoir créer une petite ligne, une petite histoire, comme ça avec mon univers ou aussi jouer à des jeux vidéo, voilà. Juste au moins me détendre et ne pas avoir trop la tête dedans, histoire de me sortir un peu de ça.
Et toi, Luna?
Moi, j'aime bien écrire des poèmes.
Ouais.
Du coup, ça me permet de parler de tout et de rien, sans forcément qu'il y ait de forme, tout ça. Ou sinon, après, j'aime bien faire du sport. Du coup, faire du sport, ça me permettait de me libérer, tout ça. Et après, je fais de la danse folklorique, donc je peux m'évader.
T'évader aussi également. Yann Dognon, c'est depuis tout à l'heure, on entend ces jeunes qui communiquent, qui parlent de l'écriture. Ça peut me surprendre un petit peu, parce qu'on dit que les jeunes n'aiment plus écrire. Et depuis tout à l'heure, on entend un petit peu tous ces jeunes qui aiment le dessin, l'écriture, les poèmes. On a l'impression que ça reste un mode d'évasion, l'écriture.
C'est mettre en mots. Finalement, ce qu'on vient faire, soit par la parole dans un PEJ, dans une psychothérapie, avec un psychiatre, on peut le faire par l'écrit. Je pense que la musique, écrire des chansons, on pense par exemple très vite au rap, qui est du poème en fait, finalement, mis en musique. C'est forcément poser des mots sur ce qu'on leur ressent, sur ce que l'on vit, et voir sur ses attentes, l'art, le sport.
Le sport, on a abordé le sport également.
Le sport, oui, c'est aussi très important pour penser à autre chose, pour plus positiver, évidemment, se mettre.
Et pour produire de l'endorphine,
l'hormone du bonheur. Aussi, oui, c'est une de meilleure humeur, j'avais oublié, mais c'est un détail très important que je conseille évidemment à tout le monde.
Un conseil aussi également de le sport, oui, Yann.
Et l'art comme le sport, c'est des endroits, finalement, où on vient ressentir des émotions dans un cadre assez délimité. C'est ça qui est intéressant, que ce soit des sports individuels ou collectifs, par exemple. Vous allez ressentir de la tristesse, de la frustration, des joies, des peines, qui sont finalement des émotions très très saines et qui viennent aussi nous habituer finalement à ressentir de façon physique et mentale ces émotions qu'on peut ressentir aussi tous les jours. Quand on est petit à petit coupé, quand on s'isole, parfois on a des réflexes où on ne ressent plus rien, il n'existe plus rien, on ne réfléchit à plus rien, on n'a plus envie de se lever. Le fait d'écrire, de dessiner, comme tu le disais, c'est aussi une relation entre son corps et son esprit, et ça finalement petit à petit ça peut nous reconnecter. Donc il ne faut pas négliger du tout ces petites activités du quotidien, dessiner sur vos cahiers, aller courir quand ça vous pète. On n'est pas du tout dans un rapport compétitif, dans un rapport de performance. On est dans un rapport émotionnel, finalement, une activité. Et c'est ça qui compte.
Je vais continuer avec vous parce que vous recevez donc des jeunes au quotidien. Quels sont les signes qui doivent alerter pour les parents qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a des signes vraiment avant-coureurs qu'ils peuvent remarquer chez leur, aussi bien même les étudiants qui peuvent le remarquer sur leurs petits camarades? Est-ce qu'il y a vraiment des signes?
Alors, je pense qu'on peut passer une demi-heure sur les signes. Ce qui est intéressant, je pense que c'est l'isolement. On a parlé de phobie scolaire, on a parlé de ce genre de symptômes. Je pense que toutes les attitudes de retrait sont inquiétantes. Ils sont des symptômes d'un mal-être qui peut à un moment donné s'installer. Après, toutes les conduites à risque, sur la route, les conduites addictives, donc l'alcool, la cigarette, la drogue, etc., sont un surplus d'écran, évidemment, même si voilà, ça je le mets entre guillemets parce que c'est des fois voilà, une question ou une problématique qu'on souligne un peu trop à mon avis. Mais voilà, toutes ces attitudes de retrait, ces attitudes de dégradation envers soi-même, addiction, conduite à risque, à l'adolescence, qu'est-ce qu'on pourrait...
Ce sont les principaux risques qui peuvent alerter les parents ou bien l'entourage du jeune.
Ouais, les troubles du sommeil, des insomnies à répétition, des cauchemars à répétition, un appétit qui s'amoindrit ou au contraire qui est assez disproportionné. Attention, c'est la question de l'adolescence quand même. Mm-hmm. Tout ce qui va finalement décrochage scolaire ou au contraire un surinvestissement scolaire. Les bons élèves sont aussi des fois, des personnes qui à un moment donné viennent avoir des problématiques de santé mentale parce qu'il y a une surpression. Donc avoir 18 sur 20 n'est pas forcément un bon signe de santé mentale.
Luna, Loïc, vous avez reconnu quelques signes ça vous parle, les signes qui ont été...
Justement, le fait qu'un 18 sur 20 n'est pas forcément une preuve de bonne santé mentale, ça c'est justement le cas d'une amie justement, ouais. que j'aide évidemment. Évidemment, l'isolement, c'était mon cas. Quand j'étais au collège, je m'isolais du monde, je voulais pas être proche de qui que ce soit, alors que c'était une très mauvaise idée. Si je peux donner un conseil, ne faites pas ça. Et aussi d'autres cas qu'on avait traités, notamment avec Axel, de se gratter le bras, d'avoir de l'eczéma. Ouais. Ça aussi, je m'y reconnais. Enfin, pas pour moi, mais pour un membre de ma famille.
C'est les symptômes que tu connais.
Voilà, oui. C'est, de temps en temps, c'est discret, mais ça se voit quand même un peu les symptômes. C'est là où on ne doit pas hésiter à aider la personne. Ouais.
Luna?
Moi, il faut savoir que je dors pas la nuit. Enfin, je dors, mais
sommeil agité.
Toutes les heures, je me réveille, donc ouais. Le sommeil n'est pas profond, tout ça, donc très compliqué.
Ouais, pour toi, c'est trop d'écran ou c'est parce que tu ressasses tout ce que tu as fait la journée
Non, juste, je ne sais pas. Mon cerveau me dit réveille-toi.
Réveille-toi, donc ouais. T'es quelqu'un qui dort très peu.
Oui, mais du coup, j'en ai parlé tout ça, donc ouais. C'est ce qu'il faut faire. Et maintenant, j'ai un médicament. Je peux dormir 7 heures sans me réveiller, donc c'est cool.
Maintenant, tu te sens beaucoup plus reposé quand tu te réveilles. Oui. Une intervention, peut-être?
Oui, là, on a cité quelques symptômes, mais je pense qu'il ne faut pas passer à côté de propos désabusés, des pleurs qui sont très régulières. On va avoir tout ce qui va être l'agressivité. Il faut penser à... par exemple, là, on a parlé de harcèlement scolaire, mais finalement... Moi, je reçois beaucoup de jeunes garçons dans des bagarres, dans des attitudes finalement qui sont destructrices envers l'environnement, ce qui peut être aussi des symptômes d'un mal-être profond. Donc on peut passer une demi-heure sur ces symptômes. Le but, c'est d'être à l'écoute de ce qui est verbalisé par un enfant, un adolescent, un jeune adulte ou vos parents, peu importe. C'est qu'à un moment donné, si ces symptômes qui sont annoncés pour eux sont une preuve de leur mal-être, voire même d'une souffrance, il faut absolument les prendre en compte. Une des premières paroles qu'on dit aussi dans nos entretiens, c'est je te crois. Peu importe ce que tu vas dire, je te crois. Mm-hmm. Et en tout cas au PAEJ, de la réalité des personnes qui viennent nous voir. On n'est pas des enquêteurs, on n'est pas là pour remettre en question leurs paroles, leur vécu, leurs émotions. Le but, c'est de partir de ça. Et finalement, c'est à partir de ça que se crée une relation, que se tisse un lien et qui, là, va avoir une réalité opérationnelle dans le quotidien du jeune ou de la famille, parce qu'on accompagne aussi des familles. Donc le conseil que j'ai, c'est croyez vos enfants.
Alors justement, parce qu'on est dans les conseils, pour peut-être clôturer un petit peu, quel conseil simple, applicable dès aujourd'hui, pourriez-vous partager pour les jeunes et pour les parents et où trouver de l'aide facilement et gratuitement?
Alors on a parlé, ma structure, hein, ouais, le passage, PEJ, 157 rue du Plessis à Carpentras évidemment, mais je vais citer mes homologues.
Sur le département, oui.
Voilà, donc le PEJ d'Avignon, qui est porté par le planning familial, super structure, la maison des adolescents, là, qui est portée par l'hôpital, mais qui est présent partout sur le Vaucluse, voilà, nous on est présent à Orange, à Bolène, la MDA elle est présente aussi à Valréas, à Vaison. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc c'est des lieux d'accueil qui sont gratuits. Vous pouvez venir de façon répétitive ou en one shot, ça dépend un peu de vos besoins. Faut pas oublier évidemment les centres médico-psychologiques qui sont eux portés par l'hôpital de Montfavet. Donc il existe des CMPEA pour enfants et adolescents. Il existe des CMP pour adultes. Ce sont des structures pareilles qui sont gratuites et qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Donc n'hésitez pas à y aller. Rappelez aussi qu'il existe mon parcours psy, 12 séances de psychologue remboursées en partie.
60% sécurité sociale, 40% par les mutuelles.
Vous l'avez dit, pas moi. effectivement, important, donc, c'est des psychologues qui sont conventionnés avec l'assurance maladie. Et après, il existe d'autres psychologues qui ne seront pas remboursés ou en partie par vos mutuelles. La question des psychiatres aussi, il ne faut pas hésiter à aller voir un psychiatre si à un moment donné les sources d'anxiété, les symptômes de souffrance, les traumatismes vécus sont trop importants. La question de la psychiatrie est une question éminemment importante quand on parle de santé mentale.
Tout à fait. Luna, Loïc, on va parler un petit peu d'espoir, enfin, des perspectives, du positif. Si vous vouliez adresser un message à un jeune qui traverse une période difficile, quel serait-il ? Loïc.
Pour ma part, ce serait évidemment de ne pas rester seul. Dès qu'il y a un problème, qu'il faut trouver des personnes de confiance, des amis, des parents, ou justement le passage à Carpentras. Évidemment, faire des activités physiques pour se changer les idées, ne pas rester trop longtemps, soit sur les écrans, sur les études, évidemment. Et de surtout faire énormément attention, et conseil là que je conseillerais plus, par exemple, aux enseignants ou aux parents, de faire très, très, très attention à leur enfant et d'être hyper attentif. Car de temps en temps, les enfants, les ados dans ce cas-là, ne sont pas vraiment prêts à se livrer face à quelqu'un. Donc c'est justement ces petits symptômes qu'on a vus, il faut savoir les percevoir et accompagner l'enfant durant ses problèmes, qu'il ait un traumatisme, une phobie scolaire ou d'autres problèmes. On pourrait évidemment passer une demi-heure dessus. Voilà, mon conseil premier, ce serait vraiment de ne pas rester seul.
Et pour Luna ?
Moi déjà, savoir ce dont quoi on a besoin de nous. Pas forcément écouter les autres en premier, mais d'abord se positionner sur nous, ce qu'on a besoin de savoir, ce qu'on recherche en fait pour aller mieux, tout ça. Et ensuite, on choisit ce qu'on trouve le mieux, tout ça. Voilà.
Merci en tout cas pour ces deux témoignages. Elisabeth, pour conclure, quelque chose à rajouter ?
Eh bien écoutez, c'était très intéressant. Merci à vous, des mots forts, passion, famille, confiance. Effectivement, la santé mentale est grande cause nationale et on a du travail et on est content de pouvoir encore accompagner des structures parce qu'on voit l'importance de la proximité. À travers tous vos témoignages, on a vu que la parole, l'écoute et aller dans des lieux où vous êtes anonyme ou avoir le sentiment d'être en confiance. Et donc, c'est important de donner des moyens et d'aider à ces moyens et de prendre en compte ces souffrances-là qui passent par de la parole. Et la parole, elle se construit. On n'arrive pas, on parle. Il faut la construire, il faut être en confiance. Et à partir de là, on peut parler.
Merci Elisabeth. Yann ?
Je vais juste rajouter un petit mot. Si vous êtes seul et que vous avez accès à un téléphone portable, le 3114, numéro hyper important. Voilà, si vous avez des envies suicidaires, ne restez pas seul. Et 119.
Le 119.
Voilà, au cas où, malheureusement, on est encore dans un pays où il y a beaucoup d'enfants qui subissent des violences, des maltraitances, des négligences. Et donc, quand on parle de santé mentale aussi, on parle d'enfants qui sont victimes. Donc le 119 et le 3114, restez pas seul.
Merci de ce rappel. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Yann Dognon pour son appui professionnel lors de cette émission. Je précise que vous êtes accueillant écoutant au point écoute le passage PAEJ à Carpentras. Merci à Elisabeth Hansberger, présidente de la délégation de Vaucluse de la Mutualité française. Je tiens à rappeler que cette émission a été réalisée à l'initiative donc de votre délégation. Merci à tous les jeunes du campus Provence Ventoux d'avoir apporté leur témoignage. Donc Julien, Axel, Luna, Loïc, Eya et William. Merci en tout cas à tous les six pour vraiment des très beaux témoignages. On remercie également Florian du côté de la technique. Sachez que cette émission sera disponible en podcast sur notre site www.rtvfm.net. Merci à tous. Restez à l'écoute des programmes de RTVFM et surtout une très belle journée sur le 102.2 et sur le DAB+. À très bientôt pour un prochain live santé de la Mutualité.
La Mutualité française Sud délégation de Vaucluse vous a présenté les lives santé sur RTVFM.